nous vous parlerons d'elle, de vous et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.
Bien, bonjour chers auditeurs.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Alors, en ces périodes d'élections, on vous a concocté une petite émission sur les suffragettes. Alors, les suffragettes, ce terme désigne, en son sens strict, les militantes de la Women Social and Political Union, une organisation créée en 1903 pour revendiquer les droits de vote des femmes au Royaume-Uni. Ces modes d'action fondés sur la provocation rompirent avec la bienséance qui dominait jusqu'alors le mouvement suffragiste britannique. Alors ce terme de suffragette possédait une connotation plutôt négative puisqu'il était utilisé par la presse pour discréditer les femmes dans leur engagement. Alors, vous savez, le suffixe « être », ça vise toujours à minorer les femmes. Une minette, une suffragette, je sais pas quoi.
Midinette.
Une midinette, voilà.
Une poulette.
Une poulette. Donc, par extension, le terme est parfois utilisé pour désigner l'ensemble des militantes pour le droit de vote des femmes dans le monde anglophone. Cependant, bien sûr, la question se pose aujourd'hui de réhabiliter le terme de suffragiste à la place de suffragette pour éviter tout jugement de valeur et adopter une appréciation historique plus neutre.
Oui, ce serait quand même mieux. Bon, enfin bref. Faisons donc un peu d'histoire. Avant la Première Guerre mondiale, les femmes n'ont pas le droit de vote. Il y a quand même quelques exceptions. En Nouvelle-Zélande, depuis 1893, y compris les Maoris, l'Australie depuis 1901, la Finlande depuis 1906, la Norvège aussi depuis 1913, et puis quelques États américains aussi. Au cours du 19e siècle, quelques lentes avancées concernant les droits de femmes avaient été gagnées. Le droit des femmes mariées de disposer de leurs biens propres. Le droit de vote dans certaines élections mineures. Évidemment pas les élections importantes.
Bah non.
Et le droit de faire partie du conseil d'administration d'une école.
Incroyable.
Incroyable. Ça concerne les enfants, donc c'est un peu leur rayon. Ça.
Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques artistes qui ont écrit des chansons sur ce thème des suffragettes. Alors, la première qu'on va entendre maintenant, c'est David Bowie, je crois. Donc, alors, allez, on écoute David Bowie qui s'appelle Suffragette City.
Suffragette City, I don't lean on me, man, 'cause you ain't got time to check it. No more suffragette city.
vraiment... Ouais, pardon.
Toute ma jeunesse.
Ah bah oui, David Bowie. Alors, dans l'Empire britannique de la seconde moitié du 19e siècle, hein, c'est quand même la reine Victoria qui gouverne l'Angleterre depuis des décennies. Mais pourtant, les femmes sont considérées comme des citoyens de seconde classe. Alors, qu'elles soient riches ou pauvres, paysannes ou bourgeoises, ouvrières ou nobles, elles n'ont pas davantage de droits qu'un criminel, qu'un enfant ou même qu'un malade mental. Un métier équivalent, elles gagnent le tiers de ce que gagne un homme et n'ont pas d'accès à l'éducation. Et quant à la femme mariée, elle ne s'appartient plus puisque son identité est subordonnée à celle de son mari. Alors, cette conception rétrograde de la femme, certaines vont tenter à n'importe quel prix de la faire évoluer. Elles sont alors persuadées que cette amélioration de leurs conditions de vie passe par le droit de vote des femmes.
Et c'est ainsi qu'en 1832, en Grande-Bretagne, est lancée la première pétition féministe présentée au Parlement et demandant le droit de vote des femmes. Une requête très très spéciale y est discutée, celle de Mary Smith de Stanmore, qui argue du fait que payant les mêmes impôts et étant soumise aux mêmes lois que n'importe quel homme, elle doit avoir aussi le droit de les élaborer en élisant des représentants et de les appliquer dans les tribunaux.
Pas faux.
Pas faux. Alors, c'est sans doute trop pour Sir Frederick Trench. L'honorable député fait remarquer que si l'on établit des jurys paritaires, hommes et femmes se verront contraints à des situations moralement équivoques, comme d'être enfermés ensemble toute une nuit lors des délibérations. Quand même un truc incroyable.
Ouais, quelle horreur.
Quelle horreur. Quand on lui rétorque qu'il est de notoriété publique que l'honorable et galant député passe des nuits entières en compagnie de dames sans qu'il se passe quoi que ce soit d'indigne, Trench se contente de répondre « Oui, mais nous ne sommes jamais enfermés. »
Ça change tout.
Bon, bref, l'assistance rit. Et ainsi se clôt le premier débat sur le suffrage féminin de l'histoire de la Grande-Bretagne. Les défenseurs des droits des femmes représentent était alors une minorité. Le mouvement féministe naissait à peine finalement et on refusait aux femmes les droits civiques et politiques dont jouissaient les hommes. Et même si les célibataires et les veuves avaient plus de liberté que les femmes mariées, lesquelles ne pouvaient avoir de propriété, ne pouvaient rédiger de testament ou détenir la garde de leurs enfants, elles étaient aussi soumises à de grandes restrictions. Alors, on était un peu plus libre quand on n'était pas marié ou lorsqu'on était veuve, mais c'était pas non plus génial.
Voilà. C'est-à-dire qu'on dépendait souvent encore de son père ou alors de son frère.
Oui, quoi, de son frère. Voilà. Oui.
Alors, les femmes ne pouvaient pas exercer de profession dans la médecine ou encore le droit, ni accéder à des postes dans l'administration. Alors, il va de soi qu'elles ne pouvaient pas voter. Hein. Dans la mentalité de l'époque, cette subordination faisait partie de l'ordre social. Les hommes, mieux dotés, bien sûr, intellectuellement et physiquement, devaient prendre en charge la sphère publique, tandis que les femmes occupaient la sphère privée, placée sous leur protection. Les femmes partageaient cette opinion qu'elles transmettaient de mère en fille. Il y avait peu de marques de protestation. En 1825, les premiers activistes, William Thompson et Anna Wheeler, se demandaient « Vous, les plus opprimés et les plus humiliés, quand vous rendrez-vous compte de votre situation, quand vous organiserez-vous, protesterez-vous et demanderez-vous réparation ?» Mais même ceux qui dénonçaient l'injustice de la situation n'envisageaient pas de revendiquer le droit de vote. Alors, au début du 19e siècle, en effet, c'était un droit minoritaire dans des régimes parlementaires. En Grande-Bretagne, il était restreint à 20% des hommes. L'idée prévalait que seuls ceux qui avaient les capacités et les aptitudes les meilleures étaient aptes à élire les gouvernants. Donc seuls les cercles les plus radicaux défendaient le suffrage universel masculin. Mais en général régnait la conviction qu'une telle responsabilité devait incomber aux hommes bien éduqués et accoutumés à gérer des propriétés. Cette minorité triée sur le volet saurait décider de ce qu'il y avait de mieux pour les autres hommes et évidemment pour les femmes, considérées comme d'éternels mineurs. Dans la décennie 1860, les associations qui défendent le vote féminin vont se multiplier. Et comme l'affirmait le philosophe John Stuart Mill, dans un pays gouverné par la reine Victoria, qui avait démontré sa capacité à diriger, pourquoi n'accordait-on pas le droit aux femmes, les mêmes droits aux femmes, pardon, qu'aux hommes. Voilà, je me mélange.
Alors, il y a un autre truc, on considère aussi que les femmes étaient trop impulsives, pas assez réfléchies, enfin, voilà, trop sujettes trop aux variations, trop émotives.
Ah oui, parce que...
Ouais. Toutes des hystériques.
Oui. Alors, Paul McCartney, lui aussi, a fait une petite chanson sur... Enfin, une chansonnette. Sur les suffragettes, lorsqu'il était avec le groupe The Wings. Et donc, ça s'appelle Jet.
Alors, bon, on va continuer. Hein. Tu as évoqué les premières organisations qui militaient pour le vote des femmes. Elles pensent trouver une occasion en or. C'est la nouvelle loi électorale qui a été approuvée en 1867, qui étend le droit de vote à un tiers des hommes adultes. Mais les articles de la loi s'y réfèrent sous le terme de men, homme, et non de mâle, mails, enfin les mâles, quoi. Donc, ça, l'idée, c'est que ça peut, on peut interpréter ce mot men en englobant les deux sexes. Aussi, les suffragettes encouragent-elles les femmes à participer aux élections ? Et l'une d'elles, Lily Maxwell, qui apparaît sur le registre des votants grâce à une erreur, l'une d'elles se rend donc à son collège électoral afin de voter pour un candidat proche des suffragettes. Alors ça ne plaît pas, et pour éviter que son cas ne soit suivi de beaucoup d'autres, il est précisé quelques mois plus tard que la loi ne fait en aucun cas référence aux femmes. Donc les femmes ont perdu, enfin les suffragettes ont perdu leur pari, mais l'intérêt au moins c'est que ça fait pas mal de publicité, et les anti-suffragistes sont quand même, commencent à être inquiets. Ils estiment, eux, que les femmes sont représentées par ces derniers. Donc un des arguments, c'est de dire, si la femme peut voter aussi, c'est donner deux voix au mari, finalement, puisque de toute façon, elles vont voter, a priori, comme leur mari. Et puis si jamais époux et épouse ne sont pas d'accord, ça va semer la discorde dans le foyer. En plus, si les femmes se mettent vraiment à voter, elles vont vouloir être députées, membres du gouvernement.
Incroyable.
Incroyable. Ça peut être préjudiciable pour leur santé, parce que c'est quand même difficile, comme la politique. Enfin, c'est quand même... Et puis, qui s'occupera des maris ? Enfin, bref, tous les arguments sont bons, quoi, pour...
pour évincer.
Évincer les femmes du vote.
Mais. En 1873... Aux États-Unis, Lily Dovre Blake intervient dans la commission constitutionnelle de New York en faveur du vote des femmes. Et avec Matilda Jocelyn Cage, elle signe la Déclaration des droits des femmes du centenaire de 1876. Alors cette même année, en France, Hubertine Auclert fonde la Société des droits des femmes qui soutient le droit de vote des femmes, et elle devient en 1883 le suffrage des femmes. Mais si on revient au Royaume-Uni, en 1897, Millicent Fawcett fonde la National Union of Women's Suffrage Society afin d'obtenir le droit de vote pour les femmes. Espérant y parvenir par des moyens pacifiques, Fawcett donne des arguments pour convaincre les hommes politiques seuls à avoir le pouvoir de l'octroyer. Elle met par exemple en évidence que les femmes devaient obéir aux lois et donc devraient avoir le droit de participer à leur élaboration. Et en 1903, Emmeline Pankhurst fonde la Women's Social and Political Union, et avec ses trois filles, Christabel, Sylvia et Adela, ainsi qu'un groupe de femmes britanniques rapidement nommées suffragettes, commence une bataille plus violente pour obtenir l'égalité entre les hommes et les femmes.
On va continuer. Donc en 1905, Christabel et Annie Kenny sont arrêtés pour avoir crié des slogans en faveur du vote féministe lors d'une réunion politique du Parti libéral. Elles choisissent l'incarcération plutôt que de payer l'amende. Et c'est le début d'une suite d'arrestations suscitant une sympathie grandissante dans le public pour les suffragettes. Elles commencent à apparaître un peu comme martyrs finalement. Celles-ci se mettent à incendier des institutions symboles de la suprématie masculine qu'elles contestent, comme une église, un terrain de golf réservé aux hommes. Et en 1908, au Parlement britannique, Muriel Mathers et Helen Fox s'enchaînent à la grille de la Galerie des Dames afin d'obscurcir la salle des travaux parlementaires. Pour les détacher, il faudra démonter la grille. Winston Churchill, alors ministre de l'Intérieur, donc 1910-1911, se proclame, lui, favorable au droit de vote des femmes, tout en refusant de céder aux actions illégales. Il ne s'oppose donc pas à la multiplication des arrestations. Le 18 novembre 1910, Emmeline Pankhurst, suivie de 300 suffragettes, manifeste devant le Parlement contre l'abandon des projets de loi. La répression policière est alors d'une extrême brutalité. Sous les ordres du nouveau ministre de l'Intérieur, donc Churchill, 200 femmes sont arrêtées. Les forces de l'ordre ferment en revanche les yeux quand des badauds s'en prennent aux militantes, à celles qui ont osé franchir le code de la femme respectable. Bon, c'est pas une période très glorieuse quand même. La propre sœur d'Emmeline Pankhurst, brutalisée par la police, va mourir de ses blessures à Noël. Plus de 130 femmes déposent plainte contre des policiers pour agression. Ce jour restera dans l'histoire sous le nom du Black Friday, vendredi noir. Les suffragettes prennent même des cours d'arts martiaux pour pouvoir se défendre si elles sont agressées. Enfin bref, c'est vraiment une période très chaude. Hein.
Très violente.
Très très violente.
Et donc, il y a un film qui a été fait en 2015 de Sarah Gavron avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brenda Gleeson, Meryl Streep dans le rôle justement de Madame Pankhurst. Je vais y arriver. Voilà, donc je vous propose d'écouter la bande-annonce du film et qui est passée il n'y a pas très longtemps sur OCS. Mm.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Vous travaillez aussi à la blanchisserie Glass House?
Je suis née dans ce quartier. J'ai commencé à mi-temps quand j'avais 7 ans. Et puis je suis passée à plein temps à 12 ans.
Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts?
Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains.
Tout le monde s'en tape, ma jolie.
Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord?
Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire.
Tu es une femme mariée, tu es ma femme. C'est ça ton rôle, tu dois rester à ta place.
Eh bien, je n'accepte plus cette idée.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement.
Le droit de vote pour les femmes!
Nous allons frapper au cœur des communications.
Mon travail est de faire respecter la loi.
Je m'en fiche, on m'a pas demandé mon avis sur cette loi.
Punissez les responsables, par n'importe quel moyen.
Non!
On vous mettra hors d'état de nuire.
En faisant quoi? Vous comptez toutes nous enfermer? On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous ne nous arrêterez pas toutes.
Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois.
Donc c'est un film voilà qui retrace bien le parcours de ces suffragettes et ce qui montre aussi la violence hein, de la police et envers les femmes. Alors le 1er mars 1912, des suffragettes appartenant à la classe moyenne descendent dans la rue, chacune avec un petit marteau caché dans son manchon, et elles brisent toutes les vitrines de l'Ouest londonien. Les suffragettes vont définitivement abandonner le militantisme pacifique et plus de 200 d'entre elles vont être arrêtées quelques semaines plus tard, alors qu'elles s'en prennent cette fois à des bâtiments officiels. Les suffragistes commencent à considérer les suffragettes comme des illuminés qui ne comprennent rien au militantisme et qui retardent simplement leur cause. Sylvia Pankhurst est tellement radicalisée dans la violence qu'elle se brouille avec sa mère et ses deux sœurs. Et fin mars 1912, le quartier général des suffragettes est investi par la police. Christabel est obligée de s'enfuir en France alors que sa mère est déjà en prison, arrêtée alors qu'elle cherchait à remettre une pétition au roi. Et depuis Paris, le mouvement devient clandestin et donc subversif. Des grèves de la faim s'ensuivent dans les prisons. La police tente d'alimenter de force les récalcitrantes en les gavant et le mouvement répondit sans succès avec la loi Cat and Mouse Act, officiellement The Prisoner. Lorsqu'une gréviste de la faim devenait trop faible, elle était relâchée puis réincarcérée une fois sa vie hors de danger. Alors, il y en a certaines qui sont décédées hein, suite à ce gavage forcé, hein, parce que ce n'était pas fait, évidemment, dans des conditions très,
ouais,
très correctes.
Alors, on va continuer un petit peu dans le temps. Donc, le 4 juin de 1913, a lieu le Derby Royal d'Epsom. lors de la troisième course, la suffragette Emily Davison, tentant d'accrocher une écharpe en signe de protestation autour du cou du cheval du roi George V, qui participait donc à ce derby d'Epsom.
C'était quand même assez osé de se jeter à la tête d'un cheval en pleine course.
C'est très, très fou même. Donc elle se jette sous les sabots du cheval et elle meurt 4 jours plus tard sans avoir jamais repris conscience. Ça devient la martyre du mouvement et les suffragettes organisent pour elle des funérailles spectaculaires. Voilà. On peut peut-être, enfin, c'était quelqu'un d'assez radical, on va dire, oui, puisque David, quelques temps avant, elle avait fait sauter une bombe au domicile du chancelier David Lloyd George.
Voilà, donc, il y en a qui étaient quand même assez extrémistes.
Hein. Oui, c'est ça. Il y avait une répression violente, mais de l'autre côté, ça.
Oui, comme du coup, elles n'arrivaient pas à leur fin. Du coup, elles ont été un peu.
Oui, c'était quand même.
Voilà. Alors. La Première Guerre mondiale va avoir pour conséquence une importante pénurie de main-d'œuvre masculine liée à la mobilisation et amène les femmes à occuper des emplois traditionnellement masculins. Alors cela provoque une remise en question des capacités des femmes au travail et la cause ça va provoquer une rupture au sein du mouvement des suffragettes. Alors d'une part, il y a le courant dominant qui est représenté par Emmeline et Crystal Pankhurst qui appellent à un cessez-le-feu dans leur campagne tant que dure le conflit. Et d'autre part, des suffragettes plus radicales représentées par le Women's Suffrage Federation de Sylvia Pankhurst, proche des marxistes, appellent à la poursuite des hostilités. Alors le courant majoritaire participe avec enthousiasme aux campagnes de recrutement pour l'armée et mène une tournée de distribution de fleurs, symbole de couardise, dans la rue, à des hommes en âge de se battre et qui ne sont pas engagés. En 1914, alors que Christabel Pankhurst et sa mère sont de nouveau réunies, la Première Guerre mondiale va stopper toute action en faveur du droit de vote pour les femmes. Et tandis que les arrestations continuent, Emmeline Pankhurst opte pour une nouvelle stratégie. En échange de la libération de toutes les suffragettes, elles cessent de toute action violente et vont participer à l'effort de guerre en travaillant dans les usines. C'est donc un marché conclu avec le gouvernement.
Alors, à partir de 1916, certains soldats commencent à revenir du front. La plupart, ce sont des ouvriers et ils demandent le droit de vote. Après ce qu'ils ont vécu, le gouvernement reconnaît qu'on ne peut pas le leur refuser. Millicent Garrett et Emmeline Pankhurst, parlant cette fois-ci d'une seule voix, exercent une pression constante sur les députés en profitant de l'argument de l'effort de guerre. Donc elles disent qu'elles aussi, les femmes, elles ont beaucoup contribué à cet effort de guerre et elles ont aussi beaucoup perdu. Alors le gouvernement, qui pensait être un peu tranquille du côté des femmes et des revendications des suffragistes et des suffragettes, il ne peut plus trop se dérober. Voilà, ils sont un peu coincés, il faut que le pays redémarre, enfin bon. Et donc, ils ne peuvent pas refuser aux femmes ce qu'ils accordent aux hommes pour le même motif. En 1918, le Parlement vote la Representation of the People Act. Bon, c'est dit sans accent, mais vous avez compris comme ça. tous les